السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، حجاج بيت الله الحرام، فعلى غرز الله سبحانه وتعالى sa guidée, son aide et son assistance, seul, sans associé, nous arrivons à la dernière nuit des jours du pèlerinage. Cela après que chacun ait fait tous les efforts possibles pour s'enregistrer sur la plateforme. Cela après que chacun ait levé les mains sincèrement vers Allah afin qu'il fasse partie du nombre des invités d'Allah pour ce pèlerinage. Cela après avoir été entre l'espoir et la crainte, le cœur plein d'amour et de désir ardent de venir à la maison sacrée d'Allah pour répondre à l'invitation d'Allah tabaraka wa ta'ala et se soumettre à son ordre lorsqu'il nous a dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. C'est une obligation d'Allah sur les gens que d'accomplir le pèlerinage à la maison, pour celui qui en a la capacité. Et vous avez tous répondu à votre Seigneur, labbayk Allahumma labbayk. Vous avez répondu à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala, et la telbiya vous a accompagné sans cesse jusqu'au dixième jour, lorsque vous avez lancé la première pierre sur la grande stèle. Tout ce que nous avons pu réaliser, c'est grâce à Allah. À lui la louange revient de droit. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné nos sens et notre capacité. Puis c'est lui qui a fait converger notre cœur vers sa demeure. C'est lui qui nous a donné la santé et les moyens. C'est lui qui a fait qu'on soit ses invités. Donc réellement, c'est Shakur. Toutes les louanges lui reviennent de droit. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Nous allons parler, Ikhwat al-Iman, d'une adoration des plus aimées chez Allah. Une des paroles préférées d'Allah. Le soleil ne s'est pas levé sur une meilleure parole, ainsi que ses trois autres. Elle fait partie du Coran. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a répété très souvent dans différentes situations. L'adoration de laquelle nous allons parler, Ikhwat al-Iman, c'est At-Takbir. At-Takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et Allahu Akbar, c'est un superlatif qui signifie Allah est plus grand. Sous-entendu, Allah est plus grand que tout. Et le Takbir accompagne le musulman dans tous ses états et toutes ses situations. Et là est le titre de la conférence. At-takbiru musahibun li hayatil muslim kulliha. Le takbir,
accompagne la vie du musulman dans son entièreté. Le takbir, c'est une parole légiférée. Lorsque tu es joyeux et heureux, c'est une parole légiférée lorsque tu reçois une bonne nouvelle et l'annonce d'une merveille. C'est une parole légiférée lorsque tu es choqué ou que tu as entendu une parole grave ou vu un fait catastrophique. Le takbir est légiféré, que tu sois résident ou en voyage. Le takbir t'accompagne dans la plupart des adorations et pour cela, tu as été créé. Quand tu dis Allahu Akbar, ça veut dire Allahu Akbar min kulli shay. Allah est plus grand que tout, que toutes les créatures. Allahu Akbar fi rububiyyati, dans sa seigneurie, Allah est le plus grand. Allahu Akbar fi uluhiyyati, dans son adoration, c'est le plus grand. C'est le seul digne d'être adoré. Allahu Akbar fi asma'ihi wa sifatihi, dans ses noms et ses attributs. Lahu al-asma'ul husna wal mathalul a'la, à lui les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits. Allahu Akbar fi ahkamihi, dans ses jugements, Allah est le plus grand. Allahu Akbar fi qada'ihi, dans tout ce qu'il décrète. Allahu Akbar, c'est le seul créateur, le seul maître et propriétaire, le seul administrateur des cieux et de la terre. Allahu Akbar, c'est le seul qui mérite l'adoration. Il n'y a rien sur terre, ni dans les cieux ni dans les mers, qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah, le Seigneur des cieux et de la terre. Allahu Akbar, nul n'a la perfection comme Allah, dans ses noms, dans ses attributs et dans ses actions. Allahu Akbar, cette parole accompagne le musulman dans tous ses états et dans toutes ses situations. À commencer, premièrement, par la salat. À commencer, premièrement, par quoi? Par la salat. As-salatu shi'aruha takbir. La prière a pour emblème le takbir. Et c'est même sa clé. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, miftahuha takbir. Ou plutôt tahrimuha takbir. Tu rentres dans la prière et ce qui t'était permis auparavant devient interdit par la formulation de la grandeur suprême d'Allah en disant Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tahrimuha takbir, rapporté par Abu Daoud al-Tirmidhi ibn Majah. Puis, le prophète alayhi salatu wa salam, tout au long de la prière, prononçait le takbir. À chaque fois qu'il descendait, à chaque fois qu'il se relevait, il prononçait le takbir. Exception faite de lorsqu'il se relevait de l'inclinaison, qu'est-ce qu'il disait? Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. En dehors de ça, à chaque fois qu'il descendait, à chaque fois qu'il se relevait, ou entre eux, ou pour tout déplacement dans la prière, il prononçait le takbir. Et les prieurs derrière l'imam suivent l'imam et prononcent à leur tour le takbir. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, innama ju'ila l'imam ou li'utamma bih. L'imam n'a été mis qu'afin qu'on le suive et qu'on le prenne. Pour exemple, c'est pour cela que les savants ont dénombré le nombre de takbirat simplement dans les 5 prières obligatoires et ils sont arrivés au nombre minimum de 85 takbir. Au nombre minimum de 85 takbir, tu as pour moyenne 5 takbir par raka'a. Et en un jour, tu pries combien de raka'at au minimum? 17. Donc, tu as environ 85 takbir simplement pour les prières obligatoires. Mais la prière, étant le pilier le plus immense après l'attestation de foi et de la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam, elle n'a pas été légiférée sans au préalable une introduction. Et sans pour la parfaire et la bonifier des invocations. Avant d'entrer en prière, qu'est-ce qu'il y a comme appel? Al-Adhan. Et avant d'entrer en prière encore, qu'est-ce qu'il y a? Al-Iqama. Et est-ce que dans l'Adhan et l'Iqama, il n'y a pas At-Takbir? Dans l'Adhan, par jour, tu comptes combien de Takbir? Tu dis 4 fois le Takbir au début, 2 fois à la fin. Allez, ça kadhalik, n'est-ce pas? Et il y a 5 prières par jour. Donc, juste le Adhan, ça fait 30 Takbir par jour. Et toi, tu répètes derrière le Mouaddin. Ça n'est pas tout. Avant d'entrer en salat, il y a ensuite l'Iqama. 5 fois par jour. Et ça fait 20 takbirat. Ou ça fait 20 takbir. Ça fait 50 takbir. Avant même d'entrer en salat. Tu t'es préparé. Et t'as prédisposé ton cœur à le remplir de vénération d'Allah Azza wa Jalla. Et les Arabes ne connaissent pas de paroles plus illustres, plus grandioses et colossales pour vénérer Allah et témoigner de sa grandeur que quelle parole? Allahu Akbar. La parole du takbir. Ainsi, le musulman n'est même pas entré en salat et il a déjà prononcé un grand nombre de fois le takbir. Ça, c'est l'adhan. Ça, c'est l'iqama. Et ça, c'est les 5 prières obligatoires. Passons au 3e point. Est-ce qu'on fait que les prières obligatoires? Non. Le prophète, alayhi salat wa salam, par exemple, nous a dit: celui qui préserve 10 unités de prière par jour, Allah lui construit une maison au paradis. Et dans l'autre hadith, 12 unités de prière, c'est ce qu'on appelle le rawatib. Naam. Et si tu rajoutes à cela le witr, le rawatib, ça va t'amener à 120 takbir. À 120 takbir. Et si tu ajoutes salatul witr en une seule raka'a, tu auras 5 takbirat de plus. Et si tu fais 3 raka'at pour le witr, tu auras 15 takbirat de plus. Passons au 4e point. Al-adhkaru dubura kulli salah ou ba'da salah. Les invocations ou l'évocation d'Allah légiférée après les 5 prières. Après la prière, le prophète, alayhi salat wa salam, il est connu qu'il disait 3 fois, Astaghfirullah. Mais dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, on reconnaissait la fin de la prière. Il dit quand il était petit, de chez lui, on reconnaissait la fin de la prière avec le takbir. Le prophète, alayhi salat wa salam, disait 3 fois à voix haute, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis il prononçait les invocations également à voix haute. Il faisait les éloges d'Allah et mentionnait son unicité et ses louanges. Après cela, à nouveau, il disait 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et il complétait 100 avec le tahlil. Donc, 3 fois après la salat obligatoire et plus loin, 33 fois. Si tu multiplies le tout par 5, ça t'amène à combien de takbir dans le zikr après la salat obligatoire? Ça t'amène à 180 takbir. Subhanallah. Est-ce qu'on a conscience de la valeur de ce zikr? Est-ce qu'on réalise ô combien il nous accompagne de notre réveil? Et comme vous l'entendrez, inshallah ta'ala, jusqu'à notre coucher. En réalité, le musulman doit donc comprendre que simplement avec la prière, qui est le 2e pilier de l'islam, et le lien solide entre toi et Allah, la législation qui a été révélée au prophète, alayhi salat wa salam, après qu'on l'ait élevé au-dessus des 7 cieux, pour qu'Allah lui parle directement, sans intermédiaire, comme il parla à Moussa, alayhi salam, taklima, et il lui a ordonné la salat, sallallahu alayhi wa sallam, simplement dans cette grande adoration, et on compte au minimum, par jour, 435 takbir. 435 takbir, avec la préparation de ce qu'il y a avant l'adhan et l'iqama, et les invocations après la salat. qui avait réellement connaissance de cela? Qui a déjà médité sur la multitude et la grande quantité de takbir que le musulman prononce au quotidien avant la salat obligatoire, juste avant la salat obligatoire, durant la salat obligatoire et après la salat obligatoire? Passons au cinquième point. Il y a 2 jours, que s'est-il passé dans l'ensemble des pays musulmans qui avaient vu la lune au même moment? Il y a une salat qu'on appelle comment? Salatul Eid. Et à Salatul Eid, il y a des takbirat qu'on appelle Az-Zawaid. Des takbirat qui sont recommandés, qu'on prononce après takbiratul Ihram. Donc ça fait 7 takbirat dans la première rak'a, et ça fait 5 takbirat dans la seconde. Ainsi, le jour de fête, le musulman prononce davantage et takbir pour vénérer son Seigneur et pour être reconnaissant pour toutes les grâces qu'il lui a dispensées. Et il témoigne cela à voix haute avec le takbir, avec ferveur. Ça fait 12 takbirat de plus pour la salat du Eid. Et lorsque le musulman décède, Allah Azza wa Jal l'honore comme il l'a honoré de son vivant. Allah honore tout humain. Il l'a créé, il lui a donné l'essence, il lui a donné la fitra et il lui a donné ce dont il avait besoin pour vivre dans ce bas monde. Puis, du fait qu'il ne saurait, s'orienter seul vers lui, il lui a envoyé des messagers et il leur a révélé sur eux des livres. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Allah nous dit, on a certes, sur la traduction des sens du verset, honorer le fils de Adam. Ça, c'est l'honorabilité qui est générale. Puis, il y a un takrim khas, une honorabilité qui est spécifique. C'est l'honorabilité qu'Allah a accordée que aux musulmans, en lui permettant de dire « La ilaha illallah Muhammadur Rasul », en lui permettant d'accomplir les 5 prières, en lui permettant de sortir la zakat, en lui permettant de jeûner Ramadan, en lui permettant d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée, en lui permettant de lui obéir, de s'éloigner de sa désobéissance, il l'a honoré de manière grandiose. Le muslim, il est honoré. Le muslim, il est honorable. Il ne convient pas de le mépriser. Il ne convient pas de le déprécier. Allah Azza wa Jal nous dit « Yarfa'illahu alladhina amanu minkum » Allah élève ceux qui parmi vous ont la foi. Allah élève ceux qui parmi vous ont la foi. C'est pour cela que lorsque le musulman décède, on l'honore. Est-ce qu'on le laisse sur la terre jusqu'à décomposition? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On le lave. On le parfume. On le met dans le linceul. On prie sur lui. On l'enterre. N'est-ce pas? On fait du'a pour lui. On honore le muslim jusqu'à son dernier instant sur terre pour le mettre dans la terre. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans Salatul Jinaza? Dites-moi. On prononce combien de takbirat? Au minimum 4. C'est les textes les plus répandus. 4 takbirat. Subhanallah, même après ta mort, le takbir t'accompagne. Subhanallah. Tu es plus là. Avec ton âme. Ton corps est là. Ton âme s'est séparée de ton corps. Mais le takbir, lui, ne se sépare pas de toi. On t'installe devant l'imam. Il se met au niveau de ta tête. Et il dit « Allahu Akbar ». Les gens derrière disent « Allahu Akbar ». Puis il récite Sourate Al-Fatiha. À nouveau, il dit « Allahu Akbar ». Puis il récite Salatul Ibrahimiyya. « Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad » jusqu'à la fin. Puis une troisième fois « Allahu Akbar ». Les gens derrière disent « Allahu Akbar ». Et il récite « Ad-Dua » pour le mort ou la défunte. Ensuite, une quatrième fois « Allahu Akbar ». Ils font le taslim. Ça n'est qu'après avoir prononcé ces 4 takbirat qu'on porte le mort, on le dirige au cimetière et on l'ensevelit et on le met dans la terre. Wala hawla wala quwwata illa billah. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder une bonne fin. Ça, c'est pour la prière. Quel est le 3e pilier de l'islam? As-siyam. Allah subhanahu wa ta'ala, proche de la fin du jeûne, ou à la fin du jeûne, lorsque le dernier coucher du soleil du mois de Ramadan a lieu, marquant l'entrée de la première nuit du mois de Shawwal, donc la fin du mois de Ramadan, et l'annonce du lendemain, le Eid al-Fitr, il nous est légiféré at-takbir. Et ce, jusqu'à la venue de l'imam, pour faire la prière du Eid. Allah nous dit dans le Coran, dans Surah Al-Baqarah, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Et afin que vous complétiez le nombre, c'est-à-dire des jours, que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissant, tu prononces le takbir à la fin de Ramadan pour louer Allah, pour mentionner sa grandeur, pour témoigner ta reconnaissance. Il t'a permis d'être en vie et de finir le mois de Ramadan, de le jeûner et d'œuvrer dans le mois de Ramadan. Il t'a guidé à ces grands emblèmes de l'islam. Alors tu prononces le takbir jusqu'à ce que l'imam arrive pour commencer Salatul Eid. Et l'imam commence Salatul Eid avec quoi ? Avec le takbir, subhanallah, tu t'arrêtes pas du takbir. Tu n'arrêtes pas le takbir. Et quand tu penses que c'est fini, ça recommence de plus belle. Comme Allah dit dans le Coran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Ça veut dire quoi ? Lorsque tu finis, comment est-ce qu'on va traduire ? Développe ce désir, c'est-à-dire, quand tu finis ton action, prépare-toi pour une autre. Tu finis tes œuvres, soit de dunya, et ben tu repars dans une adoration. Et aussi, tu finis une adoration, tu te reprépares pour faire une autre adoration. Il y a si peu, on était fi Medina ou bien fi Mecca, il y a 2 mois et demi. Pour quel mois ? Pour le mois de Ramadan. Et on faisait la Umrah de quoi ? De Ramadan. Et nous voici ici, dans le mois de Dhu-Hijjah, pour faire le Hajj. À nouveau, fi Baytillah al-Haram. Tu finis une action, tu repars dans une autre. Tu reposes ton cœur, tu lui redonnes vigueur et il désire ardemment retourner vers Allah. Ainsi, on a saccadé, on a fragmenté les différentes adorations afin qu'on ne se lasse jamais, afin qu'on n'ait jamais, on n'observe jamais de lassitude dans notre cœur. Dans le Hajj, avez-vous eu conscience que le takbir vous a accompagné ? Le Hajj a lieu dans quel mois ? Dhul-Hijjah, n'est-ce pas ? Dès que le mois de Dhul-Hijjah entre, il nous est légiféré de beaucoup prononcer le takbir et de faire beaucoup d'adorations, et particulièrement le takbir. Puis, quand le Hajj commence, après l'Ihram, quand tu arrives à la Kaaba et que tu vas commencer ton tawaf, quelle est la première parole que tu commences par laquelle tu commences à arriver à la pierre noire? Allahu Akbar. Ton tawaf commence par quoi? Et takbir. Puis, à chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam repassait par la pierre noire, qu'est-ce qu'il disait, ikhwat al-iman? Allahu Akbar. Sauf au 7e tour, il apparaît qu'il n'a pas dit Allahu Akbar. Mais est-ce que ça fait que 6 takbirat? Voyons la sunna du prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith de Jabir radiallahu anhu. Lorsqu'il est parti à Maqam Ibrahim et a dit « وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى » et qu'il a fait 2 raka'a avec « Al-Fatiha » puis « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » puis « Al-Fatiha » et « Suratul Tawhid »« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ » Ensuite, il est parti boire de l'eau de Zemzem et on a versé sur la tête. Puis il est revenu à la pierre noire et il l'a salué à nous. Il l'a salué à nous. Le takbir t'accompagne au début du tawaf, au milieu du tawaf, et lorsque tu finis le tawaf. Après le tawaf, tu fais quoi ? Et tu vas où ? Hein ? Au mas'a, tu vas au sa'i. Et lorsque tu montes sur El Marwa, qu'est-ce que tu dis ? Sur El Safa, pardon, qu'est-ce que tu dis ? Et takbir, Allahu Akbar, Subhanallah, quelle est donc cette adoration qui ne se sépare jamais du croyant ? Tawaf, takbir. Premier jour d'Hijja, takbir. Salat takbir. Avant salat takbir. Après salat takbir. Nawafil, rawatib takbir. Oui, takbir. Il vient au hajj, est-ce qu'il va se reposer du takbir? Non, il va se délecter du takbir. Il va se délecter du takbir. Il va remplir son cœur de la vénération d'Allah Azza wa Jal par la mention de sa grandeur en mentionnant qu'il est plus grand que toute chose. Il arrive à As-Safa. Il dit trois fois Allahu Akbar en se dirigeant vers la Kaaba. Naam. Puis, il lève, quand il finit le dhikr, il lève les mains, il fait le dua. À nouveau, il dit Allahu Akbar trois fois. À nouveau, il dit Allahu Akbar trois fois. Il finit le dhikr, il lève les mains, il fait le dua. Une troisième fois, il prononce le takbir trois fois. Il finit le dhikr et il part à Al-Marwa. Arrivé à Al-Marwa, il se met en direction de la Qibla et il dit trois fois Allahu Akbar et il refait la même chose que ce qu'il a dit, que ce qu'il a fait à As-Safa. Et il fait sept allées en tout. Ça fait combien de takbir dans le sa'i? Hein? Il y a trois fois trois takbir, n'est-ce pas? Il y a trois fois trois takbir, fois sept. Ça fait combien en tout? Comment? 63 takbir dans quoi? Quelle adoration? Le sa'i. Le sa'i. N'est-ce pas? Ensuite, il va se couper les cheveux. Puis il remercie Allah Azza wa Jal. Naam. Si c'est la Umra, ou si les Moutamati'a, yatahalla l'histoire de l'Ihram, le huitième jour de Dhul Hijjah, il se remet en état d'Ihram, avec la formulation du Tawhid. Naam. Et il se rend à Mina. Et il se rend à Mina. Et il prononce beaucoup la Talbiya, et il prononce beaucoup le takbir. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet? Ma ahalla muhillun qattu illa bushir. Jamais une personne ne prononce la talbiya sans recevoir une bonne nouvelle. Wa la kabbara mukabbirun qattu illa bushir. Et il n'y a pas une personne qui dit Allahu Akbar sans recevoir une bonne nouvelle. Les compagnons ont dit bil jannah. Les compagnons ont dit la bonne nouvelle du paradis. Et le prophète alayhi salat wa salam leur a répondu oui. Le prophète alayhi salat wa salam leur a répondu oui. Donc quand tu es en chemin et tu prononces le takbir et tu prononces la talbiya, subhanallah, tu reçois la bonne nouvelle du paradis. À chaque fois que tu prononçais la talbiya en chemin, à chaque fois que tu prononçais le takbir, tu recevais la bonne nouvelle du paradis. Combien de fois vous avez dit la talbiya quand vous avez quitté Médine jusqu'à Mecca? Combien de fois vous avez dit la talbiya lorsque vous êtes parti de l'hôtel jusqu'à Mina? Combien de fois vous avez dit la talbiya à Mina? Combien de fois vous avez dit la talbiya de Mina à Arafat, puis à Arafat, puis de Arafat à Muzdalifa, puis à Muzdalifa, puis de Muzdalifa à la grande stèle, et là vous avez seulement arrêté la talbiya. J'aimerais bien savoir en moyenne combien de fois la personne a prononcé le talbiya et ajouté à cela le takbir. Eh bien sachez qu'autant de fois qu'il a prononcé la talbiya et le takbir, il a reçu la bonne nouvelle du paradis. Allahu Akbar. Wallahi l'azim. Wallahi l'azim. Alladhi la ilaha ghayru. Si Allah Azza wa Jal envoyait une seule fois un ange pour t'annoncer une seule fois dans ta vie la bonne nouvelle du paradis, que cela te procurerait un sentiment d'allégresse tel qu'il s'en faudrait de peu pour que ton cœur lâche et que tu meurs de joie. Pensez-vous cette chose trop loin? Le prophète alayhi salat wa salam a annoncé que lorsque les gens du paradis vont entrer au paradis et que les gens de l'enfer vont entrer en enfer. Et on va leur dire, Ya ahl al-jannah, ô vous les gens du paradis. Alors ils vont tendre l'oreille et lever la tête. Puis on va dire la même chose aux gens de l'enfer. Ils vont faire la même chose. Et on va amener un bélier matérialisant la mort. Et on va leur dire, est-ce que vous reconnaissez cela? Reconnaissez cela? Ils vont dire oui. Pourquoi? Ils ont tous goûté la mort. Ils vont dire oui, c'est la mort. Et on va sacrifier la mort. Puis on va leur dire, ô vous les gens du paradis, vous avez à vivre et ne plus jamais mourir. Ô vous les gens de l'enfer, vous avez à vivre et ne plus jamais mourir. Les gens du paradis vont être touchés d'une allégresse telle, c'est-à-dire une joie qui est incontenable, qui explose, qui se répand et qui s'extériorise à un point tel que si la joie avait pu tuer, il serait mort. Et les gens de l'enfer, à l'inverse, vont être touchés d'un désarroi tel et d'une tristesse tellement profonde que si la mort avait pu, si l'annonce, si la tristesse et l'affliction avaient pu tuer, ils seraient morts. Et toi, c'est pas une fois que tu reçois la bonne nouvelle du paradis. C'est autant de fois que tu as prononcé le takbir. Donc si tu veux, retiens ta langue. Et si tu veux, délie-la avec le takbir. Et les gens sont entre eux, mustakfirun wa muqillun wa tawfiqu biyadillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et comme le dit le grand savant Mohammed ibn Abi Bakr, connu sur son surnom Ibn al-Qayyim, il aime à dire, et les gens dans ce sujet se divisant, ceux qui en font beaucoup et ceux qui en font peu, et celui qui obtient la réussite n'est autre que celui à qui Allah a accordé le succès. Ensuite, après, tu arrêtes la talbiya, tu as jeté les pierres. Taïb. La talbiya s'arrête, est-ce que le takbir s'arrête? Subhana al-Hakim, al-Alim, al-Malik, al-Haq, al-Mubin. Regardez et méditez cette chose. Dès que la talbiya s'arrête, Allah Azza wa Jalla te remplace par une autre adoration. Quand tu prononçais la talbiya, n'est-ce pas que tu as fait du tawaf? N'est-ce pas que tu as fait du sa'i? Hein? Mais est-ce que, n'est-ce pas que tu es allé à Mina? N'est-ce pas que tu es allé à Arafat? Tu es allé à Muzdalifa? T'as pratiquement tout fait. T'as pratiquement tout fait comme action. Oui ou non? D'accord. Une chose, tu l'avais pas encore faite. C'est quoi? Dites-moi. Ramyul Jamarat. Jeter les pierres sur les stèles. Eh bien, à ce moment-là, précisément, la talbiya s'arrête. Mais on te remplace par quoi? Et takbir. Pendant 4 jours, Allah Azza wa Jalla te donne et takbir. Naam? Et pendant combien de jours tu avais la talbiya? Pendant 2 jours, on te donne le double en takbir. Tu arrives, tu jettes les 7 pierres, tu prononces le takbir, donc combien de fois? 7 fois. Ça, c'est combien de jour? C'est le jour du Eid, le 10e. Tamam. Ensuite, qu'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam? Dites-moi. Nahar. Il a sacrifié les bêtes, n'est-ce pas? Combien de bêtes a-t-il amené? 100 bêtes. Allahu Akbar. Est-ce que c'était des moutons? C'était des ibils, c'était des chameaux. Combien est-ce qu'on a payé l'udhiya, al-hadi? 170 euros. Vous savez, c'est combien un chameau? Hein? C'est combien un chameau, vous savez ou pas? Cherchez la réponse, à la fin, vous m'apportez la réponse. Le prophète, alayhi salatu wassalam, wallahi l'azim, on a demandé à ses épouses, elles ont dit, il nous arrivait de ne pas voir le feu dans la cheminée. Al-Hilal, wal-Hilal, wal-Hilal. Ça veut dire qu'il ne mangeait pas de viande. Parfois, durant 3 mois consécutifs. Et c'était la demeure la plus noble qui connut ce bas-monde. Habité par le plus noble des hommes qui connut ce bas-monde. Habité par les femmes les plus nobles qui connut ce bas-monde, les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. Et pourtant, il n'avait pas ça. Il n'avait pas la dunya qu'on a. Et subhanallah, lorsqu'il s'agit d'Allah, et lorsqu'il s'agit de kabbar Allah, de mentionner la grandeur d'Allah, et de vénérer Allah, combien de bêtes il amène à sacrifier? 100. Et un chameau, ça représente beaucoup, et c'est la richesse la plus prisée chez les Arabes. Mais il avance le chameau en sacrifice pour son Seigneur, et lui ôte la vie, retire son âme, fait couler son sang. Pourquoi? Parce que Allahu Akbar. Pourquoi? Parce que Allahu Akbar, parce que Allah est plus grand que tout, plus grand que cet argent, plus grand que la valeur de ce chameau, plus grand que l'amour des choses de ce bas. Ça, c'est pour el-ibil. Que ça, c'est pour les bêtes à sacrifier. Que disait-il lorsqu'il sacrifiait la bête, sallallahu alayhi wa sallam? Allah nous dit dans le Coran, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Écoutez le verset en relation avec le sacrifice pour le pèlerin. Pour le sacrifice du pèlerin dans sourate Al-Hajj. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah. Hein? C'est pas avec la bête en soi en réalité que tu te rapproches d'Allah. C'est pas sa viande ni son sang qui monte chez Allah. Allah n'a pas besoin de ça. Et ça ne change rien chez Allah Azza wa Jalla, c'est pas ça qui compte. Mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété, cet état que tu as dans le cœur, cette soumission à Allah, ton amour, ta crainte et ton espoir qu'il accepte ce sacrifice, qu'il accepte ton adoration. Wa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Et Allah n'accepte que des gens pieux. Il nous dit ensuite sur la traduction des sens, c'est ainsi qu'il vous les a assujettis. Allah Azza wa Jalla vous a rendu ces bêtes malléables. Vous pouvez les monter, elles vous suivent. Vous pouvez les dresser, les monter, vous déplacer, les utiliser pour vos bienfaits mondains et religieux, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Le sacrifice a été légiféré pourquoi ? Le hajj a été légiféré pourquoi ? Tout cela pour qu'on mentionne la grandeur d'Allah à titre de reconnaissance, en guise de reconnaissance pour nous avoir guidés et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. Les bienfaisants qui adorent Allah comme si ils voyaient Allah avec la perfection de l'amour. Dans le cas contraire, avec la perfection de la crainte en ressentant qu'Allah les surveille. Ça c'est l'excellence entre eux et Allah. Puis il y a la bienfaisance entre eux et les créatures. Ils donnent aux pauvres, dépensent pour lui, ils vêtissent celui qui est nu, ils enseignent à celui qui est ignorant, ils orientent celui qui est égaré. Ils sont bienfaisants envers l'ensemble des gens. Et bien cela annonce leur la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à qui ? Wabashir al-Muhsinin. La bonne nouvelle de quoi ? Les savants disent que lorsque la nouvelle ou le complément d'objet direct est volontairement tu et non mentionné, c'est pour nous indiquer l'entièreté des parties composantes de la chose. De manière plus simple, nous n'avons pas dit « annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants de ceci » ou « annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants de cela ». Le fait de ne pas avoir mentionné la bonne nouvelle, ça englobe toutes les bonnes nouvelles qu'il y a dans les textes. Ça annonce toutes les bonnes nouvelles qu'il y a dans les textes. Barakallahu fikum. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on lui a apporté les bêtes et il les a sacrifiées les unes après les autres. Lorsque c'était pour le Eid, chaque année, ضَحَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرْ وَضَعَ عِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. Quand le prophète alayhi salatu wassalam sacrifiait la bête, na'am, du Eid, il sacrifiait une bête, il sacrifiait un bélier cornu, noir avec des parties blanches ou blanche avec des parties noires, il les sacrifiait de sa main. Il disait « Bismillah, Allahu Akbar ». Quand il sacrifiait la bête du Eid, il disait quoi ? « Allahu Akbar ». De dire « Bismillah », c'est obligatoire. Et de dire « Allahu Akbar », c'est la sunna recommandée du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et il la maîtrisa avec son pied. Mais ce jour-là, le jour du pèlerinage d'adieu, le jour du Eid, il a sacrifié combien de bêtes ? Il a amené 100 bêtes à sacrifier. De sa noble main, il en a sacrifié combien ? 63. Ajoute ses takbirat. Et le reste, il l'a confié à qui ? À qui ? Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife de l'islam, l'époux de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhum. Le père de l'Hassan et l'Hussein, les meilleurs jeunes du paradis, radiallahu anhum. Le prophète alayhi salatu wa sallam, dixièmement, nous dit ما من أيام أعظم عند الله ولا حب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Il n'y a pas de jour plus grand auprès d'Allah, ni durant lesquels les œuvres sont plus aimées de lui, que ces 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, les 10 jours que nous avons finis il y a peu. Alors, multipliez-y le tahlil, c'est-à-dire la ilaha illallah, le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar, et le tahmid, c'est-à-dire Alhamdulillah. Hadith Abdullah ibn Omar, rapporté par l'imam Ahmed. Tayyib. Ensuite, tu viens à, yani tu vas à Mecca, et ensuite tu te, Hassan s'est rasé la tête, naam, il est sorti de l'Ihram, s'est lavé, Aïcha la parfumée, radiallahu anha, et il est parti faire le tawaf. Il a commencé par quoi? Le takbir, à nouveau. À chaque tour, qu'est-ce qu'il disait? Et takbir. Naam, tayyib. Il est rentré à Mina. Le lendemain, 11e jour, de Dhul-Hijjah, Yom Al-Qarr. Qu'est-ce qu'il a fait après le Zawal? Hein? Il s'est rendu au Jamarat. Et il a jeté 7 pierres sur la première stèle. En mettant Mina à sa gauche et la Mecque à sa droite. Et à chaque jet, il disait Allahu Akbar. Ça fait combien de takbir? 7. Puis il a croisé et allé à gauche pour jeter 7 pierres sur la deuxième. En mettant la Mecque à sa gauche et Mina à sa droite. À chaque jet, il disait Allahu Akbar. Ça fait combien de takbir? À nouveau 7. Et entre les deux, il faisait dua. Après celle-ci aussi, il a fait dua. Puis il s'est rendu à la troisième stèle. Il a jeté les 7 pierres. À chaque jet, il disait Allahu Akbar. Ça fait combien de takbir ce jour-là? Ça fait 21. Puis il revenait à Mina. Le lendemain, le 12e jour, il a fait la même chose. Ça fait combien? Ça fait 21. Et le 10e, il avait dit combien de fois déjà? 7 fois. Et le 13e jour, naam, il a fini par à nouveau aller jeter les pierres sur les stèles après le zawal. La première, 7 takbir. La deuxième, 7 takbir. La troisième, 7 takbir. Naam. Ça fait donc combien en tout? Ça fait 70 takbir. Ça fait 70 takbir. En 3. En maza, en 4 jours. Naam. Tayyib. Dans le cas où la personne est partie aujourd'hui, est-ce que c'est permis ou pas? Oui, ça s'appelle comment le fait de quitter Mina le 12e jour? At-ta'jil. Hein? Allah a dit, fala ithma alayh. Il n'y a pas de péché. Cependant, tu dois aller jeter les pierres avant, après le zawal, et tu dois quitter Mina avant le coucher du soleil. Dans le cas où il a fait ta'jil, il a combien de takbir avec les jamarats? Si on enlève 21 à 70. Hein? Dites-moi. Ça fait 49 takbir. Donc au minimum, celui qui a fait ta'jil, Allah Azzawajal l'honore de 49 takbir dans, en corrélation avec le jet des pierres sur les stèles. Et en plus de cela, Allah lui efface par pierre jetée un grand péché parmi les péchés destructeurs, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ma akramaka ya Rabb. Oh combien notre Seigneur est, nous honore. Oh combien il est parfait. Oh combien il est généreux. Oh combien il nous facilite les chemins du pardon, les chemins de son amour, de sa crainte et de son espoir. Qu'Allah nous pardonne notre ingratitude. Qu'Allah nous pardonne pour nous avoir donné autant et de nous voir autant ingrats. Il nous donne pour qu'on le loue. On lui désobéit avec ses bienfaits. Il nous donne pour qu'on le remercie. On utilise ses bienfaits pour lui désobéir. Il nous donne et il nous dit qu'il nous a tout donné pour la salate. Et on n'applique pas cette salade comme il aime, à l'heure comme il aime, à la mosquée comme il aime, avec concentration comme il aime. Puis on lui désobéit, mais il nous donne encore pour se faire aimer davantage dans le cœur du croyant, pour qu'il ait honte, pour qu'il regrette, pour qu'il demande pardon et revienne à Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Et s'il ne revient pas, il lui met des épreuves sur son chemin pour qu'il se rende compte, pour qu'il se rende compte de sa petitesse, de sa faiblesse et de sa vulnérabilité. Alors, dans la difficulté, il revient vers Allah et il émet des promesses. Si tu me sauves, si tu me donnes, si tu guéris mon malade, si tu me sauves de cette situation, je reviendrai à toi et je délaisserai les péchés et je t'obéirai. Alors il sauve son serviteur. Alors il sauve son serviteur. Il répond au serviteur lorsqu'il est dans la détresse. Amma yujibul muttarra idha da'a wa yakshifu as-su. Qui répond à l'invocation de celui qui est en détresse et dissipe le mal? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah répond. Allah répond. Allah le sauve, mais à nouveau, il retombe encore dans des péchés. فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ يَرَاجِعُونَ. Qu'Allah pardonne notre faiblesse et qu'il nous permette dans ce hajj d'avoir un repentir sincère, celui après lequel, d'avoir un hajj mabrour et un repentir sincère, c'est-à-dire celui après lequel on ne retourne pas au péché. Et les savants ont dit que parmi les empêchements de la récompense du hajj mabrour, il y a, ikhwat al-iman, le fait d'avoir quitté un pays, un péché dans son pays, mais de manière temporaire en se disant, dès que je reviens, je retourne au péché. A'oudhu billah. Ça, c'est pas un repentir sincère. Celui qui porte dans son cœur le péché, et que rien n'a empêché de commettre, rien ne l'a empêché de commettre le péché, si ce n'est le voyage, le pèlerinage, mais il sait pertinemment qu'il n'a pas cessé le péché en réalité, mais c'est temporaire et qu'une fois de retour, il va s'adonner à la désobéissance d'Allah, et à ce péché, les savants ont dit que ce n'est pas un repentir sincère, ce n'est pas un hajj mabrour. Attention, attention, toi le locuteur, attention toi l'auditeur, attention à ne pas laisser des péchés en suspens en se disant qu'on va retourner à ces derniers, parce que sinon on perdra la récompense du repentir sincère. La récompense du hajj mabrour, vous savez c'est quoi ? C'est qu'Allah nous pardonne les péchés. C'est qu'Allah nous fasse entrer au paradis, sous lesquels coulent des ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Ça, c'est dans Surat al-Tahrim. Et dans le hadith, il n'a pas d'autre récompense si ce n'est le paradis. Il n'a pas d'autre récompense si ce n'est le paradis. Est-ce qu'on est prêt à risquer de perdre ces deux grandes récompenses, chacune valant plus que ce bas monde et tout ce qu'il contient ? Gare à toi le locuteur. Gare à toi l'interlocuteur. Donc, la personne a jeté les pierres et elle a fini son hajj en disant quoi ? Elle a fini Mina, elle a quitté Mina, elle s'est séparée des Jamarat et son dernier souvenir sera quelle parole ? Allahu Akbar. Subhanallah. C'est quoi le deuxième pilier de l'islam ? C'est la salat. Avec quoi il rentre dans la salat ? Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il y a le plus dans la salat ? At-takbir. C'est quoi le cinquième pilier de l'islam ? Non, c'est quoi le quatrième pilier de l'islam ? C'est le jeûne. Il conclut ce mois avec quoi ? Et il commence le nouveau mois avec quoi ? Le takbir. Comme on a vu. C'est quoi le cinquième pilier de l'islam ? C'est le hajj. Il quitte la terre et les endroits qu'il a tant souhaité voir, qu'il a tant souhaité adorer Allah dedans, avec le dernier jet de pierre sur la dernière stèle, et voilà qu'il retourne chez lui, où il retourne à son hôtel, à son lieu de séjour, n'est-ce pas ? Son dernier souvenir, le dernier souvenir que tu auras. La dernière personne dont tu vas avoir les souvenirs avec toi à ton hajj, c'est celui qui était à côté de toi le jour où tu as jeté la dernière pierre. C'est ça qui va rester enraciné dans ta tête. وَإِنَّمَا الْأَعْمَلُ بِالْخَوَاتِمِ. Et les œuvres ne valent que par leur finalité. Est-ce que le musulman, le pèlerin s'arrête là dans le takbir ? Il rentre à Mecca, il se repose, il fait tomber la fatigue. Et les jours qui étaient difficiles, il commence à les regretter. Il disait, wallah, c'était trop bien, en vrai. Subhanallah. Et quand on était à Arafat, mashallah. Et quand on a dormi à Muzdalifa par terre, et qu'ils nous ont dit, faites demi-tour, il n'y a plus de place. Mais qu'Allah Azzawajal nous a facilité un sac de couchage, entre deux frères, hein, avec un oreiller. Mashallah. Hein. Et tu te rappelleras, quand on t'a dit qu'il faudra marcher, de Muzdalifa à Mina, de Mina Jamarat, de Jamarat à l'hôtel, de l'hôtel, tu prends le taxi. Tu marches pour faire tawaf, tu marches pour faire essaï, et tu reviens jusqu'à Mina. Hein? Et que la personne commence à regarder, c'est combien de kilomètres ça? C'est dur. Hein? Faut quoi comme chaussures? Faut quoi comme sandales? Hein?
pense pas au takbir à ce moment-là. Il pense comment je vais tenir debout. J'ai jamais marché ça, moi. Moi, je prends la voiture pour aller acheter ma baguette au quartier. Hein? Je prends ma voiture pour aller acheter la baguette. Bon, il n'y a plus de baguette où je suis, mais je prends la voiture. Non? Pour aller voir mes frères que j'aime. Hassan. Hein? Abou Bakr. Et les, mes frères que j'aime, les autres. Naam, talabat al-ilm ahl sunnah. Hein? Barakallahu fikum. Après cela, tu rentres, tu fais tes courses, tu penses à ta famille et tu commences à acheter les cadeaux du voyage. Et ensuite, la ministre des Affaires de l'Intérieur, elle t'a envoyé une liste pour être sûr, comme si tu étais au marché, que tu n'oublies rien. Comme si tu étais venu au Hajj pour faire des emplettes. Naam. Et si c'est une des meilleures, elle te dira avant d'envoyer la liste. Taqabbal Allahu mink. Mais oublie pas mes cadeaux et les cadeaux de Mamadou, les cadeaux de Maza, Boubou et les cadeaux de Ismaïl, Abdurrahman, Rachid et Aïcha, Fatima, Khadija, Safiya et ainsi de suite. Donc tu vas faire tes courses. Mais toi, t'as qu'une envie, c'est t'asseoir, te reposer. Et t'as Amina dans la difficulté. Mais cette difficulté est devenue le jardin de ton cœur. T'as plus envie qu'on te parle de course. T'as envie d'aller voir la Kaaba, t'as envie de faire le tawaf. Alors que ta seule envie, c'était de t'asseoir. Tu veux pas aller dans les magasins, tu veux pas. Alors qu'au début, tu disais, où est-ce qu'on peut trouver ça? Où est-ce qu'on, là, tu veux pas ça. Là, ton cœur, il est dans autre chose, c'est dans une autre planète. T'as goûté aux délices de la foi. Naam. Mais comme tu sais, c'est qui va te supporter? Comme tu sais, c'est qui va t'accueillir? Comme tu veux la paix? Comme tu sais, naam, que l'homme il a besoin de la femme pour vivre et que la femme a besoin de l'homme. Et comme tu sais que tes enfants, bien qu'ils t'aiment, ils aiment la dunya aussi, alors il faut que tu leur amènes les cadeaux. Alors tu vas faire tes courses. Et ensuite, Akhi, reste de la place dans ta valise. Hein? Toi, t'as de la place dans ta valise. Akhi, wallah, c'est chaud, hein? Hein? Ah, d'accord, fin. D'accord. Et Akhi, t'as de la place. Ah, faut que je vois avec, madame, mais elle a rempli, naam. Ensuite, il y a la tata Sunike ou la tata maghrébine qui, c'est combien? Mon fils, c'est combien pour ajouter une valise? Ça, c'est encore un autre niveau. Hein? Parce que Tanti, elle paye pas la valise. Hein? C'est Mamoudou qui paye la valise. C'est Bakari qui paye la valise. Hein? Et Khalti, elle paye pas la valise. Hein? C'est Abdoulilah qui paye la valise. Donc, elle demande. Mais en réalité, hein, elle sait que l'argent, il est là. Hein, elle sait que le mahram, il est là et qu'il va payer. Parce qu'il est sorti de ce ventre. Parce qu'il a abîmé ce ventre. Alors, tu payes dans le silence et tu dis merci à toi après avoir payé. Parce que tu es un croyant. Et plus tu dépenses, plus tu dis merci maman, merci Oumi. Est-ce que tu veux autre chose? Est-ce que 3 valises, ma chère mère bien-aimée, te suffiront? Hein? Après avoir rempli la valise de tata déjà? Naam. Mais tu payes, il n'y a pas de problème. Et ce croyant-là, son épouse, voyant le traitement luxurieux ou luxueux qu'il donne à sa mère, et qu'elle, elle a eu le droit que à 13 kilos dans la valise, hein? Elle lui dit, excuse-moi, si ça te dérange pas, si vraiment c'est possible, ça te dérange pas, bien sûr. Non. Hein? Il lui refuse. Il lui dit non. Ça te suffit pas, t'as acheté ça, t'as dépensé ça. Kada, oui, mais il manque ma sœur, ma cousine, la voisine, et ainsi de suite. Et kada. Alors il lui permet 2 kilos. Et il y a la mère avec 3 valises, et à l'épouse avec 1 demi-valise. Est-ce qu'il a été juste, ce frère? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien évidemment, il a été juste. Vous pensiez que j'allais répondre quoi? Il a même honoré, mashallah. Il l'a amené jusqu'à Mecca. Il a été à son service, comme jamais il a été, pendant minimum 10 jours. Il l'a supporté. Hein? Et quand elle était lente dans le tawaf, le sa'i, et entre tel rite et tel rite, et qu'elle s'excusait de la lenteur, il lui disait, c'est pas grave. Le prophète a dit, Rifqan bil Qawarir, mais dans son cœur, Il disait Allahu al-Musta'an et il avait mal aux pieds. Mais il te l'a pas dit. Moi, je t'en informe. Parce que c'est quand on est dans la tente qu'on se le dit. Hein? Maintenant que c'est séparé. Hein? Subhanallah. Après tout ça, ikhwat al-iman, le takbir est-il fini? Non. Que nous a dit le prophète, alayhi salatu wassalam? De faire du dernier lien avec la Mecque et ce pèlerinage, quoi? La maison sacrée. Donc tu vas accomplir la dernière obligation avant de quitter Mecca, avant d'emporter avec toi ce souvenir mémorable, jamais périssable, comme s'il t'avait accompagné de manière sempiternelle. C'est-à-dire qu'il dure comme s'il avait duré depuis tout temps. Et qu'est-ce que tu vas accomplir? Tawaf ul-wada', le tawaf d'Hajj. Par quoi est-ce que tu vas commencer ton tawaf? Allahu Akbar. Le takbir te rattrape. Vis avec le takbir si tu as compris tout ça. Tu ne peux pas éviter le takbir. Le takbir t'accompagne dans toutes tes situations, dans tous tes besoins, dans toutes tes peurs et tes joies. Tu prononces 7 fois, tu prononces 6 fois au moins le takbir. Et ensuite tu rentres, prends tes bagages et tu quittes ce pays. La terre de Hajar, où a grandi Ismaïl, où est venu Ibrahim, alayhi salam. Où est né le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. La terre où il y a les meilleurs endroits. La terre vers laquelle tous les cœurs convergent. Tu pars, et la dernière parole que tu vas prononcer, c'est quoi? At-takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa lillahi alhamd. Qui parmi vous habite à Mecca et a pu faire le Hajj sans voyage? Personne? D'accord. C'est une question subsidiaire. Donc, qui a voyagé? Levez la main. Tout le monde. Et moi avec. Qu'est-ce qu'il nous est légiféré lorsqu'on est monté dans la voiture ou dans l'avion pour voyager? Doua ou safar, n'est-ce pas? Dans le hadith de Ali ibn Abi Talib, il est monté sur sa monture et lorsqu'il a mis son pied dans l'étrier pour monter, il a dit Bismillah. Au nom d'Allah, il a cherché l'aide d'Allah et il a affiché sa sincérité. Quand il s'est trouvé bien positionné dessus, il a dit Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Il a loué Allah Azza wa Jal. Il a mentionné la pureté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Celui qui lui a assujetti ce moyen de locomotion sans l'aide duquel il n'aurait pas pu bénéficier de cette monture pour ses utilisations et ses déplacements. Puis, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit 3 fois « Alhamdulillah ». Après cela, savez-vous ce qu'il a dit? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis il a fait dua. Ensuite, dhahik, il a ri. Il a souri. Alors, celui qui était avec lui lui a dit, ou bien il a dit, n'allez-vous pas me demander pourquoi est-ce que je souris? Il leur a dit, j'étais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai vu faire ce que j'ai fait. Puis il a souri. Je lui ai dit au message d'Allah, qu'est-ce qui t'a fait rire? Il a répondu, Inna rabbaka ya'jabu min abdihi idha qal irfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghayri. Allahu akbar. Allahu akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait ce que Ali ibn Abi Talib a fait. Parce que Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il a fait ça, on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il a ri. Et il a raconté que le prophète avait fait la même chose que lui. Puis, il a ri. Et quand on lui a demandé pourquoi est-ce que tu as ri, il a dit parce que votre Seigneur s'étonne de son serviteur lorsqu'il dit, et il y avait dans la dua cette parole-là, Irfir li dhunubi, pardonne mes péchés, ayant la conviction que nul ne pardonne les péchés si ce n'est lui.
que nul ne pardonne les péchés en dehors de lui. Allahu Akbar. Ce hadith est dans Sunan Abi Daoud, authentifié par l'Albani, rahmatullahi alayhi, et At-Tirmidhi. Toujours durant le voyage. Le prophète, alayhi salatu wa salam, lorsque ça montait, il disait Allahu Akbar et les compagnons disaient Allahu Akbar. Dans le hadith de Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, rapporté par l'imam al-Bukhari, Kunna idha sa'idna kabbarna. Lorsque ça montait, on disait Allahu Akbar. La sunna, quand ça monte, ça décolle ou quand ça monte, eh ben, tu fais du takbir. Et la sunna, wa idha nazalna sabbahna. Et quand ça descend, tu dis subhanallah. Parmi les sagesses, c'est que lorsque l'humain est en hauteur, peut rentrer dans son cœur quoi? La vanité et l'orgueil. Alors il monte, il voit ce, yani, il a une vision plus générale de ce bas monde. Et il se voit au-dessus un peu, n'est-ce pas? Alors, il dit Allahu Akbar et ça éteint tout ça. Hein? Il se rappelle qu'Allah est plus grand que tout ça. Et ça le remet à la place de serviteur. Et lorsqu'il descend, il dit Subhanallah. Comme lorsqu'il est prosterné et incliné, il prononce le tasbih. Douzièmement, lorsque tu entends une chose grave, lorsqu'il y a un malheur, dans le hadith d'Abu Abu Waqid al-Layfi, qui fait partie des musulmans s'étant converti tardivement lors de l'ouverture de la Mecque, il raconte une histoire, c'est qu'ils sont passés près d'un jujubier et ils étaient nouvellement sortis de la mécréance pour se convertir à l'islam. Il a cité cela pour excuse face à ce qu'il va mentionner ensuite. Les associateurs avaient en jujubier un grand arbre auquel ils suspendaient leurs armes et on le surnommait « Zatu Anwata ». La chose à laquelle on suspend beaucoup, parce qu'ils suspendaient leurs armes en pensant que ça donne la bénédiction et que les armes seront plus fortes au combat et bénies. Ils faisaient du shirk avec cet arbre. En passant près de ce jujubier, les nouveaux, certains, ont dit « Ya Rasulallah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwata. Donne-nous également un arbre pour pratiquer ce qu'ils ont pratiqué sur leur arbre. » Et là, le prophète, alayhi salatu wa salam, en entendant cette parole gravissime, il a dit « Allahu Akbar, innaha sunan. » Il a mentionné la grandeur d'Allah. Donc, ça fait partie de la sunna de dire le takbir lorsqu'on entend une chose grave. Naam. Puis, ils ont délaissé cette action. Barakallahu fikum. Ce hadith est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Treizièmement, lorsque tu reçois une bonne nouvelle, lorsque tu as de la joie et de l'allégresse, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a informé que sa communauté et ses compagnons seront une grande partie des habitants du paradis. Savez-vous ce qu'ils ont dit? Le prophète alayhi salatu wa salam leur a dit, comme le rapporte l'imam Muslim dans le hadith de Abdullah ibn Saoud, dans le hadith de l'imam al-Bukhari, rapporté par al-Bukhari et Muslim. Ama tardawna an takunu rubu'a ahli al-jannah. N'êtes-vous pas satisfait d'être un quart des gens du paradis? Ils ont dit Allahu Akbar. Ils ont prononcé le takbir tellement ils étaient heureux. Alors le prophète alayhi salatu wa salam leur a dit Ama tardawna an takunu thulutha ahli al-jannah. N'êtes-vous pas satisfait d'être le tiers des gens du paradis? Ils ont dit Allahu Akbar. Ils se sont réjouis et ils ont prononcé à nouveau le takbir. Enfin, il leur a dit Inni la arju an takunu shatra ahli al-jannah. Wa sa'ukhbirukum an dhalik. Puis il leur a dit j'espère que vous serez la moitié des habitants du paradis. Et je veux vous expliquer cela. Les musulmans, d'entre l'ensemble des humains, donc des mécréants, ne sont comparables qu'à un poil blanc sur un taureau noir. Ou un poil noir sur un taureau blanc. Quatorzièmement, le takbir fait partie des quatre meilleures paroles, les plus aimées d'Allah, les plus aimées du message d'Allah. Et elles font partie du Coran. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, Ahabbul kalam in Allah arba. Les paroles les plus aimées chez Allah sont au nombre de quatre. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna badat. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, Les paroles les plus aimées chez Allah sont au nombre de quatre. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar. Ne tu nuiras en rien, quel que soit l'ordre que tu auras choisi. Tu peux dire dans l'ordre que tu souhaites. Jusqu'à la fin du hadith de Samura ibn Jundub rapporté par l'imam Muslim. Lorsque tu lis le Coran et que tu passes sur un passage, il y a le takbir dans le Coran. Il y a le takbir aussi lorsque tu lis le Coran et que tu passes dans un passage où il y a l'ordre de la prosternation. Qu'est-ce que tu fais? Prophète a dit Allahu Akbar et il s'est prosterné. Il s'est prosterné. Taïb. Lorsque tu vas dormir, il y a des invocations légiférées, n'est-ce pas? Et parmi le dhikr légiféré, un jour le prophète alayhi salatu wassalam est venu chez Fatima et Ali radiallahu anhuma. Et Fatima lui a demandé une aide, un employé qui l'aidera dans la difficulté de son travail. Parce qu'elle était au service de Ali radiallahu anhu. Et elle travaillait, elle portait des choses. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, ne vais-je pas vous informer d'une chose. Si vous la dites, ça sera meilleur pour vous que d'avoir un employé, une personne à votre service. À chaque fois que vous prenez votre couche, dites 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Ça sera meilleur pour vous que d'avoir un servant ou un employé. Ainsi, parmi les dernières paroles que tu prononces avant de dormir, il y a quoi? At-takbir. Naam, il y a At-takbir. Barakallahu fikum. Après la prière obligatoire, qu'est-ce qu'il t'est légiféré de dire? On a déjà cité Allahu Akbar, yani Astaghfirullah. Ensuite, yani trois fois Allahumma anta salam. Ensuite, le takbir. Puis, tu dis 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Naam. Tayyib. Il y a un grand hadith. Le hadith de Adi ibn Abi Hatim al-Ta'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a invité à l'islam. Il raconte cette histoire. Il dit que le prophète alayhi salatu wa sallam l'a invité au dîn et il lui a dit Ya Adi, ma afarrak, ô Adi, qu'est-ce qui te repousse? En yuqala la ilaha illallah. Qu'est-ce qui te repousse dans la parole, dans le fait de dire « Nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah ?» قال فهل من إله إلا الله. Y a-t-il de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah ? Puis il lui a dit « وما أفرك أن يقال الله أكبر فهل شيء أكبر من الله عز وجل ?» Et qu'est-ce qui te repousse qu'on dise « Allah est plus grand que toute chose ?» Et est-ce qu'il y a une chose plus grande que Allah Azza wa Jal? Adi raconte, il dit, « Fa aslamt. Je me suis converti à l'islam. » Subhanallah, avec deux choses. Premièrement, le fait qu'aucune divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. La deuxième, il n'y a rien de plus grand qu'Allah. Donc parmi les plus grandes causes pour inviter les gens à l'islam, le fait de leur exposer Allahu Akbar. Ses sens et ses preuves. Mes très chers frères, serviteurs d'Allah, invités du tout miséricordieux, vous êtes vers la fin d'une grande adoration dans un noble mois. Faites donc des efforts et remplissez votre cœur et votre temps de takbir, le temps qu'il vous reste. Et n'ayez pas peur d'élever votre voix. Et n'ayez pas honte d'élever votre voix. Certaines personnes sont distraites, d'autres ignorantes. Et d'autres ont honte. Mais subhanallah, est-ce que le chanteur chantant la perversion a honte, lui, lorsqu'il proclame le faux et l'indécence? Est-ce que le pervers a honte, lui, lorsqu'il proclame sa perversion, la filme et la propage? Donc n'aie pas honte de proclamer le takbir, comme le faisait le prophète alayhi salatu wa sallam à voix haute. Comme le faisait Omar al-Khattab, il marchait. Comme Omar al-Khattab, comme Abu Huraira, il marchait dans les camps à Mina, il marchait au marché. Et il prononçait le takbir et les gens, en entendant leur takbir, se rappelaient et ils prononçaient à leur tour. Le takbir. Et lorsque tu prononces le takbir, rappelle-toi la grandeur d'Allah dans ton cœur, et qu'Allah est plus grand que tout, et qu'il n'y a pas plus grand qu'Allah Azza wa Jal. Et si tu vénères Allah et tu mentionnes Allahu Akbar, agis en conséquence. Celui qui adore autre qu'Allah n'a pas kabbar Allah, n'a pas vénéré Allah en mentionnant sa grandeur plus que tout. Celui qui a une mauvaise opinion d'Allah et qui fait un hajj et qui pense qu'Allah ne va pas lui pardonner et ne va pas exaucer les pèlerins, il n'a pas kabbar Allah. Il n'a pas mentionné qu'Allah est plus grand que tout dans son cœur ni sur sa langue. Celui qui ne vénère pas Allah et qui lui obéit en public mais lui désobéit en secret, il n'a pas kabbar Allah. Celui qui a obéi à Allah durant le voyage et le hajj, mais il a la ferme intention de retourner au péché, de laisser la prière en groupe ou à l'heure, il n'a pas kabbar Allah. Celui qui avait des imperfections dans son comportement envers ses parents, sa mère, son épouse, ses enfants, ses voisins ou ceux qui ont un droit sur lui, et en rentrant, il retourne à ses imperfections sans s'être corrigé, il n'a pas kabbar Allah. Allah Azza wa Jal veut de nous que le takbir nous accompagne dans toute situation, en tout endroit. Il nous dit dans son livre, « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » Vers la fin de Surat Az-Zumar, Allah Azza wa Jal, après avoir exposé le tawhid, son bienfait, la voie du polythéisme et ses méfaits, il nous dit, et ils n'ont pas estimé Allah comme il méritait de l'être. Or, de la terre tout entier, il ne fera qu'une poignée. Et les cieux tout entiers, il les pliera dans sa main droite. Exempt soit-il, il est au-dessus de tout ce qu'il lui attribue comme associé. Allah nous dit dans le Coran, « Ma lakum la tarjouna lillahi wa qara » Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, comme a expliqué Abdullah ibn Abbas. Comment est-ce qu'on pourrait vénérer et s'humilier devant des créatures qui ont été créées, qui sont nées hier, qui vont mourir demain, et entre les deux, ils ont une vie imparfaite, sujette aux imperfections, aux maladies, au sommeil. Ils rentrent aux toilettes et en sortent. Et laisser, après tout ça, El-Kabir, El-Azim, Al-Akbar, Al-Muta'al, Al-Jabbar, Al-Samad, Al-Ahad. Comment est-ce qu'on pourrait se diriger vers les créatures faibles, ayant des imperfections, et laisser le plus grand, le très haut, le plus haut, Al-A'la, celui qui est vaste, celui qui est immense, le dominateur suprême, l'unique, celui qui a la perfection absolue dans tous ses noms, qui mérite qu'on se dirige vers lui pour tous nos besoins. Médite sur les noms, les attributs d'Allah Azza wa Jal. Médite même sur la création. Parmi les plus grandes causes pour Kabbarullah, c'est le fait de méditer sur sa création. Le ciel, les montagnes, la mer, les océans, et ainsi de suite, les nuages, le soleil et la lune. Et tu te verras que tu es infiniment petit dans cet univers. Allah nous dit « Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard » L'endroit des pieds d'Allah déborde les cieux et la terre. El Kursi, c'est l'endroit des pieds d'Allah, comme a expliqué Abdullah ibn Abbas et d'autres compagnons. La taille de cette chose-là déborde de les cieux et la terre. Et au-dessus, il y a le trône d'Allah, et le Kursi est infiniment petit face au trône d'Allah. Et l'univers est infiniment petit face au Kursi d'Allah. Et nous, on est infiniment petit face à cet univers. Donc ça doit nous amener à vénérer Allah, à adorer Allah et à n'adorer personne en dehors d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, dans Surat al-Isra, « قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا » Qui louange à Allah qui ne s'est point attribué d'enfant, n'a point d'associé dans la royauté, n'a pas de protecteur contre l'humiliation. Et proclame hautement sa grandeur. Naam. Avec tout ça, ikhwat al-iman, Allah Azza wa Jal t'a tout donné. Avec tout cela, Allah, t'es infiniment petit malgré tout ça. Allah t'a donné, il t'a honoré, il t'a donné l'ouïe, la vue, la raison dans le cœur. Il t'a donné la saine nature pour reconnaître la vérité une fois qu'elle te sera exposée. Il t'a envoyé le messager, il lui a révélé le Coran. Naam. Avec tout cela, comment est-ce qu'on se permettrait de ne pas le kabbar?
Comment est-ce qu'on se permettrait de ne pas lui obéir, de ne pas se soumettre à lui et de s'opposer comme fervent disputeur face à notre Seigneur et notre Créateur? Comment pourrait-on se permettre de rejeter ses bienfaits et d'être ingrat? Naam. Et comment on peut se permettre de dire tout ce que j'ai, c'est grâce à moi? Et c'est parce que Allah sait que je le mérite. Inna ma utitu ala ilmin indi. Comment est-ce qu'on pourrait se permettre? Allah nous dit dans Sourate Yassim, أَوَلَمْ يَرَوْا إِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. L'homme ne voit-il pas donc que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire évident, c'est-à-dire plein de contestation? Allah nous dit dans Sourate Abasa, قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ. Que l'homme périsse, que c'est un grand ingrat. De quoi l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme. Il le créa et lui donna sa mesure, puis lui facilita le chemin. Ensuite, il lui donnera la mort et l'enseveut. Ensuite, il lui donne la mort et l'ensevelit. Puis quand il voudra, il le ressuscitera. Allah nous montre notre faiblesse. Comment est-ce qu'après ça, on peut s'enorgueillir? Allah nous dit dans le Coran, on va finir avec le fait que cette jouissance dans laquelle vous vivez au quotidien, ikhwat al-iman, cet islam, dans lequel vous vous réveillez chaque jour et vous vous couchez chaque nuit, puisse Allah Azza wa Jal nous maintenir ce bienfait jusqu'à notre dernier souffle et qu'il nous permette de mourir qu'en pleine soumission. Sachez que ce prêche-là, ikhwat al-iman, auquel on a répondu, dans lequel on baigne, ce bienfait duquel on jouit, sachez qu'il a commencé avec le takbir. Les premiers versets que Allah Azza wa Jalla a révélés à son messager sont Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Les cinq premiers versets de Sourate Al-Alaq. Avec ces versets, comme nous disent les savants, Nubbi'a bi Iqra. Il est devenu Nabi. Wa ursila bil Muddathir. Il est devenu messager envoyé avec Al-Muddathir. Quels sont les premiers versets de Sourate Al-Muddathir? Ya ayyuha al-Muddathir, qum fa'anzir. Ô toi le revêtu, l'enveloppé d'un vêtement, d'un manteau, lève-toi et avertis. C'est-à-dire avertis contre le polythéisme. Wa rabbaka fakabbir. Et de ton Seigneur, proclame la grandeur. C'est ça le début du prêche de l'islam. La ta'wa commence avec le takbir. Et la plus grande manière de kabbar Allah, c'est de l'adorer seul d'un culte sincère, en étudiant la ilaha illallah, en prononçant la ilaha illallah, en attestant de la ilaha illallah, et en vivant et en appliquant sur la ilaha illallah, en délaissant tout ce qui peut altérer, qui peut galvauder, dévoyer ou annuler les effets et ce qui découle de la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamd. Voici un sujet qu'il me tenait grandement à cœur de me rappeler et de vous exposer en espérant qu'Allah al-Akbar ait pitié de nous et accepte nos œuvres et notre pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écouté un compagnon lui dire, un tel je l'aime. Il lui a dit, Al akhbar tahu, est-ce que tu l'as informé? Il lui a dit non. Il lui a dit, va et informe-le. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Vous n'entrerez pas, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. أَفَلَا دُلُّكُمْ إِلَا شَيْنْ دَفَعَلْتُمُهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. Le prophète a.s. a également dit un jour, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas croyant, et vous ne serez pas croyant tant que vous ne vous aimerez pas mutuellement. Ne vais-je pas vous informer d'une chose, si vous l'appliquez, vous aimerez mutuellement, répandez le salam entre vous. Tu croises ton frère, tu dis assalamu alaikum, tu gagnes 10 récompenses, ou bien assalamu alaikum wa rahmatullah, tu gagnes 20 récompenses. Ou bien « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh » Tu gagnes 30 récompenses. Et si tu ornes et tawaj et couronnes le tout du sourire et de noble caractère et de joie de rencontrer ton frère,
Alors ça, c'est une lumière superposée sur une autre lumière. Et nous, on n'a pas grandi dans l'exposition de nos sentiments. Naam, on a grandi différemment. Mais l'islam nous rattrape, nous fait fondre les métaux les plus durs que le plomb, les cœurs durs, et nous éduque à nous comporter comme le prophète nous a enseigné. Naam, qui a déjà dit à sa mère, je t'aime. Levez la main. Ceux qui ont déjà dit à leur mère, je t'aime. Levez la main. Vous vous rendez compte que ça fait pas 40%. Ça fait pas 30%. Pourquoi on dit pas? Hein? Parce que le cœur est dur, on n'a pas l'habitude, on n'a pas, et ainsi de suite. C'est qu'une histoire d'habitude et d'entraînement. Est-ce que l'enfant, quand il naît, et que tu veux le coucher, il se sauve, il se cache sous le lit, dans la chambre? Tu connais ça? Hein? Oui ou non? Non, d'abord. Tu entends, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cours, je crois qu'il y a un problème. Machallah, mon fils, ma fille, regardez, elle tient debout. Toi, tu comprends rien à ce qui se passe. Parce que c'est la première fois qu'elle est debout. Donc, le parent, il est content. Et il appelle l'autre. Hein? Et celui qui est pas marié, qui a pas d'enfant, il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Il se tient debout. C'est quoi la faïda? Ça sert à quoi? Hein? Ça rapporte pas de bien, ça enlève pas de mal. Hein? Puis, il commence à faire deux pas, il tombe. Puis trois pas, puis quatre pas, puis il fait la ligne, puis il fait la longueur, puis la largeur. Et ensuite, il court. Et ensuite, il fait de, il y a du trotteur, et ensuite du vélo, et ensuite de la moto, peut-être. Hein? Eh ben, c'est pareil. Au début, tu dis, salam alaikum maman. Tu dis, salam alaikum. Avec une voix étrange. Pas de joie, pas d'amour, pas d'affection. Alors que quand il parle à la princesse, il prend une voix mielleuse qu'on lui connaît même pas. C'est même pas sa vraie voix. Ensuite, il commence à s'éduquer un peu plus. Salam alaikum maman. Et il lui fait un bisou sur la joue. Et après, il commence à s'éduquer un peu plus. Il lui fait un deuxième bisou sur la tête, mais sur le côté timidement du bout des lèvres. Et après, elle a la honte. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais laisse-moi. Hein? Parce qu'elle n'a pas l'habitude. Hein? Tu lui dis, arrête, jeune fille. Hein? Alors qu'elle a 60 ans, tu la fais rire. Après, tu lui fais deux bisous, tu le rajoutes. Elle rit, elle est gênée. Et après, la gêne, elle commence à... Le miroir, elle commence à se casser petit à petit. Hein? Il y avait une planche de bois, c'était un faux miroir, elle commence à tomber, il y a vrai, maintenant il y a le vrai miroir, et c'est du cristal. Orné d'émeraudes, et de rubis. Et ensuite il vient et dit, salam alaikum maman, ma chérie, il ouvre les bras. Ah, la plus belle femme du monde, elle est rentrée dans la pièce. Après ça fait, elle dit, Abi, tu dis quoi là? Hein? Il dit, non, avant ta naissance. Hein? Et après, il se lève, il embrasse la main droite, après il embrasse son front, après il la laisse pas respirer, il embrasse la joue droite, après la joue gauche, et quand elle croit que c'est fini, il la resserre encore contre lui, et lui, tu m'as manqué. Elle dit, arrête tes bêtises, je suis descendu acheter du pain. Hein? Et comme ça, tous les jours, il embrasse, hein? Et après un jour, il dit, tu m'as manqué. Après la honte. Après, il rajoute, il s'entraîne, comment je vais faire? Après, il vient voir, il dit, maman, j'arrive pas, comment vous faites? Il réfléchit pas, va et dit la parole. Tu vois, Hachem, un petit peu, mais t'inquiète, ça passe. Hein? Yallah, saute dans le grand pain, yallah, tu l'encourages. Après, il rentre un jour, il dit, maman, je t'aime. Il sauve. Arab! Il a honte, il va dans la chambre, comme s'il avait fait un mal. Il a honte, il veut plus voir personne. Sa mère, elle est choquée. Lui, il est choqué. Les gens de la pièce, ils sont choqués. Personne n'ose regarder personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il a fait un truc bien? Est-ce qu'il a fait quelque chose de grave? Et ensuite, on se croise dans la pièce, on a honte. Chacun, il a honte de l'autre. Et après, il revient, il lui dit, et après, il prend goût. Après, les petits, ils viennent. Maman. Je t'aime, Oumi. Et il embrasse. Après, les enfants, ils grandissent comme ça. Et après, nous, on se marie. Et après, on a des enfants. Et comme les femmes chez nous, c'est la douceur, elles nous ont adouci. Alors, on a dit pour la première fois aux enfants, je t'aime, mon fils. Je t'aime, ma fille. Non? Et après, tu reçois des messages. Ah, bien, ça, j'ai compté les jours, hein. Ça fait 9 jours, hein. Tu te dépêches. De rentrer, hein, parce que là, tu commences à trop me manquer, hein, ça va pas aller, hein. Hein? Je t'aime, mon habit, hein, chérie. Ah, quand t'entends ça, ça transperce ton cœur. Je lui dis, je t'aime, ma fille. Hein? La femme de ma vie, je t'aime.
Naam, comme sa grand-mère n'est plus, elle peut occuper seule cette place. Naam, apprenez à dire cette parole. Tout cela, je n'avais pas l'intention de le dire. Je voulais simplement vous dire, demain, certains vont partir. Peut-être qu'on va se revoir à l'hôtel. Naam. Et à la base, je dois voyager demain. Mais il me peine de me séparer de vous. Je pense que je vais allonger mon séjour. Je pense que je vais allonger mon séjour. Naam. Afin de me délecter de votre noble compagnie. En espérant ainsi qu'Allah Azza wa Jal nous regarde avec le regard de la pitié et se dise, ils se sont assis pour moi. Je leur ai à tous pardonné, donné le paradis, réservé de l'enfer, comme c'est venu dans le hadith. Et vu que le Rasoul m'a dit, va lui dire, je vous dis, uhibbukum fillah, et je ne vais pas me sauver, mais c'est un peu dur. Wa sallallahu wa barik. Et je dis à Sadar, c'est mon meilleur ami. Depuis combien d'années? C'est un historien, c'est lui qui ramène les... Combien? Depuis 21 ans, il me supporte. Personne n'a réussi à me supporter 21 ans, sauf ma mère, rahimahallah. Hein? Et ma tante. Hein? Et l'avenir, on verra pour l'avenir qui nous supporte encore. Hein? On a voyagé ensemble, on a étudié ensemble, on a fait la Umrah ensemble, on a enseigné ensemble, on a fait da'wah ensemble. Naam, uhibbuka fillah. Naam. Ceci est, et je disais donc que peut-être demain, certains ne les verra plus, peut-être certains les entendra plus ronfler, et on regrettera leur bruit. Certains, papa tunisien, ne les entendra plus parler fort à 9h du matin, en contenant dans notre cœur le désarroi et l'incapacité de pouvoir lui parler parce qu'il a trois fois notre âge. Alors on patiente et qu'on a fait le conseil, on n'a pas le droit de le contredire nous-mêmes. Et tous ceux avec qui il y avait de l'ambiance et qu'on verra peut-être plus le thé maghribi en plein milieu de l'Arabie, Naam, en plein milieu de la nuit, à table avec mon frère Hatim de Marrakech, avec mon frère Tariq de Berkane, avec mon frère Bakari, Naam, le Soninke, avec mon frère Sadiq, l'Algérien, avec les nouveaux papas que j'ai rencontrés, avec qui j'ai fait les chemins au Jamarat, avec qui j'ai fait le retour, avec qui j'ai marché de Muzdalifa au Jamarat, tous ces papas venant de pays différents, lui c'est un Algérien, lui c'est un Marocain, l'autre c'est un Tunisien, Naam, l'autre c'est un Malien, l'autre c'est un Pakistanais, l'autre c'est un Français, l'autre c'est un Breton, et ainsi de suite. Mon frère Djibril, qui est le plus jeune de l'Assise. Quel âge as-tu, Djibril? Comment? 14 ans. L'âge de mon fils, c'est ton hajj de l'islam. Son premier hajj. Et quand est-ce que tu as fait l'armala la première fois? Il y a combien de mois? Allahumma barik. Il y a 5 mois, taqriban. Hein? Dites Allahumma barik. On ne va pas lui mettre le mauvais œil. Naam? Naam. Il y a 4 mois environ. Peut-être qu'on ne reverra plus un tel ou un tel. Naam. Mais au moins, on se sera dit les choses. C'est que c'est un honneur pour moi de vous avoir comme compagnie. Et quand vous repartirez, j'ai entendu des gens dire « Mashallah, je suis avec Abu Talha, avec Saad Arkada. » Vous pouvez laisser la deuxième partie de la phrase. Mais wallahi, c'est moi qui en rentrant chez moi qui vais dire « J'étais avec vous ». C'est pas à vous de dire « J'étais avec Abu Talha ». Abu Talha, wallahi, c'est personne. Wallahi, c'est personne. C'est un bien qu'Allah a voulu pour lui. Il lui a facilité un petit peu. Et il a agi un petit peu. Il a transmis un petit peu. Il aime ça. Il n'a pas besoin de trop d'efforts pour faire. C'est juste un bien qu'Allah a facilité. Mais vous, le mérite. Vous, le comportement. Vous, le sacrifice. Vous, l'endurance. Vous, le sérieux. Tout ça, c'est vous. Et c'est grâce à Allah. Fadlan min Allahi wa ni'ma. Wallahu alimun hakim. Donc, que chacun repart chez lui dans des bonnes conditions, avec les meilleures résolutions. Et il nous reste, Inch'Allah, au retour, une conférence de notre frère Sadaq, Abu Yahya, wafaqahu Allah Ta'ala, qui aura pour thème, « Mada ba'd al-hajj ». Hein? Il n'y a que lui qui n'était pas au courant. « Mada ba'd al-hajj ». Que se passera-t-il après le pèlerinage? Que se passera-t-il après le pèlerinage? On va quitter Mecca? On va quitter cet endroit? Comment est-ce qu'on va se comporter? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on s'est amélioré? Est-ce qu'on s'est réformé? Qu'est-ce qu'on a appris? Quelles sont les leçons tirées du pèlerinage? Voici, et plus encore, ce qu'il nous enseignera, nous rappellera, qu'Allah le récompense. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Comme Allah nous a réunis ici, on lui demande d'accepter notre pèlerinage, de nous pardonner nos péchés et de nous réunir au paradis avec nos parents, femmes, enfants, gouverneurs, savants, voisins, tous ceux qu'on a aimés pour lui, tous ceux qui nous ont aimés pour lui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.